am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالله بالدم
تكون لعنة عليكم
نبديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Haheli et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. L'année 2026 sera-t-elle une année charnière pour le Sahara occidental? Dans quelle mesure les briefings onusiens prévus durant l'année en cours vont-ils marquer un tournant majeur? Même si le Maroc a voulu exclure de facto le Front Polisario de toute équation politique et diplomatique, les représentants sahraouis sont bien présents autour de la table des négociations et c'est là sans doute une victoire en soi. Faisant entendre sa voix, l'ONU, reconnue par l'Union africaine, le Polisario bénéficie d'un consensus sahraoui qui dénonce et rejette la légitimation de l'occupation sous couvert des 10 plans d'autonomie. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, en charge du dossier depuis 2021, mène des consultations régulières avec les parties concernées pour relancer le processus politique. Avec nous en ligne, à partir de Rome, Monsieur Francesco Correal. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste du Maghreb contemporain et notamment du Sahara occidental. Monsieur Francesco Correal, en 2018, vous co-dirigiez les travaux sur le Sahara occidental, intitulé « Conflit oublié, population en mouvement », un ouvrage dénonçant l'oubli du conflit. Est-ce un oubli, selon vous, Monsieur Francesco Correal? Est-ce un oubli ou une incapacité, onusienne en l'occurrence, à faire face aux multiples pressions politiques?
Ça, c'est une bonne question, parce qu'en effet, je n'étais pas le seul, il y avait Sébastien Boulet qui a co-dirigé la publication avec moi. Il faut quand même rappeler que cette publication était la publication des actes d'un colloque qu'on avait organisé avec Monsieur Boulet. Effectivement, on s'interrogeait sur le pourquoi de l'absence, disons, des études sur le Sahara occidental en France. On explique un peu dans l'introduction quand même qu'il y a différents facteurs, la présence d'une importante communauté marocaine à l'intérieur de la France, mais oui, il y a aussi une importante communauté algérienne, je veux dire. Et aussi le fait que, de toute manière, le peuple sahraoui, le territoire du Sahara occidental, est considéré un peu marginal dans les études sur le monde arabe. Cependant, moi, je pense qu'il y a quand même une volonté d'occulter ce conflit, au moins c'est ce que j'arrive à percevoir encore aujourd'hui, parce que déjà le fait de s'intéresser au Sahara occidental et au peuple sahraoui, sans avoir aucune position prédéterminée, mais juste en faisant de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, c'est en effet rompre un silence. Et rompre un silence, de quelque manière, ça signifie lever le voile sur une situation qui persiste depuis plus de 50 ans. Parce qu'en effet, même si on fait dater le début de la question du Sahara occidental en 75 avec la marche verte et les accords tripartites, mais la question du Sahara occidental, le peuple sahraoui est dans une démarche de décolonisation depuis la fin des années 50, début des années 60, quand on commence à voir une véritable conscience nationale chez les sahraouis et chez les différentes composantes politiques et sociales de la société sahraoui de l'époque.
Des analystes voient en 2026 une année charnière. Avez-vous le même sentiment, Monsieur Francesco Correal?
Alors, je pars quand même d'un constat, continue à avoir de la répression des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Ça, c'est un argument qu'on évite soigneusement d'affronter, mais ça existe. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un blog d'une femme, médecin sahraoui qui vit en Espagne, qui disait un truc qui me semble hyper important. Avant de reconnaître une quelconque autonomie, avant de reconnaître, d'examiner n'importe quelle solution qui ne comporte plus l'indépendance, et ça, c'est selon le peuple sahraoui, de l'estimer. Il faudrait quand même que le Maroc reconnaisse qu'il a fait une guerre d'agression coloniale en 1975, qu'il a réprimé, qu'il y a eu des forces communes qu'on a découvert au-delà, à l'est, pratiquement du mur de sable qui est, il faut le rappeler, le mur le plus long aujourd'hui existant, de 1720 kilomètres qui vont pratiquement du sud du Maroc jusqu'à la frontière avec la Mauritanie.
Oui.
Et qui coupe en deux, littéralement, le territoire du Sahara occidental. Et qui coupe en deux le territoire, mais qui coupe en deux même les populations qui sont d'un côté et de l'autre du mur et qui, au-delà d'une petite parenthèse où il y avait un programme de l'ONU qui permettait les échanges de visites à la fois dans les territoires occupés et à la fois dans les campements de réfugiés, désormais il n'y a plus de contact, je veux dire, entre les familles qui sont séparées par un mur et par une histoire de plus de 50 ans. De toute manière, il faudrait quand même que les autorités marocaines fassent quand même une preuve de bonne volonté de libérer les prisonniers sahraouis, de leur laisser le droit de manifester et d'indemniser même les familles sahraouies qui ont subi des torts depuis 1975, disons.
À ce propos, Monsieur Francesco Correal, vos recherches soulignent comment les structures coloniales façonnent les dynamiques politiques perpétuant les injustices sahara occidentales. Pouvez-vous nous dire davantage sur ces dynamiques politiques?
Moi, je pense qu'il y a une continuité dans la politique coloniale marocaine au Sahara occidental vis-à-vis des Sahraouis, mais qui a dépassé un step qui n'avait pas été fait pendant la colonisation espagnole, je veux dire. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est qualifié par le droit international comme crime de guerre, qui est le renversement quand même démographique de la population à l'intérieur des territoires occupés. Aujourd'hui, c'est hyper difficile de comprendre combien de Sahraouis restent à l'intérieur du territoire, mais on sait qu'ils sont minoritaires dans leur propre territoire et que donc dans les 50 dernières années il y a eu successivement des vagues de colons qui étaient envoyés ou qui étaient invités à rejoindre les territoires qui étaient occupés par le Maroc pour établir pratiquement un équilibre démographique qui était tout à l'avantage pratiquement du Maroc et qui mettait dans une position de minorité la démographie sahraoui à l'intérieur de son propre territoire. Il faut, si je me trompe pas, au moment, disons, dans 1975, j'avais lu des archives quand même du Haut Commissariat pour les réfugiés. En 1975, il y avait eu environ 47 000 Sahraouis sur une population de 73 000 personnes recensées par les Espagnols. Environ, 74 000. Environ 47 000, 48 000 personnes qui s'étaient échappées du territoire. Et donc, il y en avait presque 30 000 qui étaient restées à l'intérieur du territoire qui, en ce moment-là, était envahi par le Maroc et par la Mauritanie. Paradoxalement, cette histoire de renversement de la démographie pratiquement à l'intérieur du territoire occupé, c'est quelque chose aussi qu'on dénonce jamais. C'est quelque chose qui est considéré comme un crime de guerre, tout comme tous les investissements étrangers dans un territoire qui est colonisé en investissant au Sahara occidental.
Monsieur Francesco Correal, en 2025, vous lancez un appel à contribution pour un colloque sur le peuple sahraoui et ses 50 ans de résistance. Votre objectif était de documenter la lutte contre l'occupation marocaine. Lors de la conférence de Naples de 2025, justement, sur le peuple sahraoui et les colonialismes, vous abordez le déni persistant du droit à l'autodétermination. La résolution 2797 de l'ONU d'octobre 2025 proroge le mandat de la MINURSO jusqu'en octobre de l'année en cours. Est-ce qu'il vous semble que cette résolution, on va dire, a été établie à escient?
C'est vrai que d'un côté, on parle explicitement du plan d'autonomie du Maroc comme base crédible pour la solution du Sahara occidental, mais en même temps, on n'en parle pas uniquement comme la seule base, je veux dire. Donc, quelque part, en particulier, je pense que ça, c'est le rôle qu'a joué le gouvernement algérien à l'intérieur de l'écriture de cette résolution. En quelque part, il y a quand même une sauvegarde du principe d'autodétermination. Après, là, la chose qui me semble assez curieuse, c'est que le gouvernement marocain considère que l'autodétermination, c'est déjà le plan d'autonomie, mais je me demande quelle autodétermination à l'intérieur d'un cadre préfigé pour lequel les Sahraouis ne peuvent pas s'exprimer.
Donc, c'est ce que vous appelez vous-même le déni persistant du droit à l'autodétermination.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Ça continue depuis des années et des années. Mais la chose paradoxale, c'est que ce droit à l'autodétermination était reconnu même par le Maroc d'abord déjà dans les années 60, mais évidemment parce que le Maroc pensait que toutes les Sahraouis auraient voté pour leur union avec le Maroc. Mais après, il avait été reconnu quand même en 88 au moment de négociations pour le cessez-le-feu de la première guerre du Sahara, qui s'est conclue quand même, je rappelle, le 6 septembre avec une trêve, pas un traité de paix, et qui a été reconnu pratiquement jusqu'à 2004-2005, parce qu'il était rappelé non seulement dans les résolutions de l'ONU, mais que officiellement, même si dans la pratique le Maroc a toujours entravé l'organisation du référendum, mais officiellement le Maroc était aussi partant pour participer au référendum. Après, ce qui est la réelle politique du Maroc, bon, on le voit aujourd'hui, les résultats, c'est la politique du fait accompli.
Monsieur Francesco Correal, historien, spécialiste du Maghreb contemporain, et notamment du Sahara occidental, des relations euro-maghrébines et les enjeux internationaux du conflit sahraoui, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur Francesco Correal.
Merci beaucoup, madame, pour l'invitation.
Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole occupée depuis 1975, n'a toujours pas de statut définitif. Entre 1980 et 1987, le Maroc y érige une barrière de séparation de 2720 km pour contrôler près de 80% du territoire. Une grande partie de la population a été forcée de quitter son pays d'origine pour les camps de réfugiés. À cet exode s'est ajoutée la politique de colonisation incitant de nombreux civils à s'installer au Sahara occidental.
Nous voulons qu'ils nous donnent notre indépendance. Nous en avons assez de la souffrance d'être des sans-abri.
Le 27 février 1976, le dernier soldat espagnol quitte le Sahara occidental. Le même jour, dans la ville de Bir Lahlou, Loual et Mustafa Seyed proclame au nom du Front Polisario la République arabe sahraoui démocratique, dont il assurera la présidence jusqu'à son décès.
بسم الله وبعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
La guerre est aussi intense sur le front diplomatique à l'ONU, avec l'Europe ou dans les instances africaines. En 1982, la République arabe sahraoui intègre l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine. En 1991, l'ONU réussit enfin à faire accepter un cessez-le-feu. Envoie sur place la MINURSO, une mission de maintien de la paix qui a pour objectif d'organiser le référendum d'autodétermination prévu pour 1992, mais toujours attendu.
Nous sommes déçus qu'une fois de plus, le Conseil de sécurité soit incapable de trouver des arguments pour mettre en place un mécanisme international, légal et permanent concernant les droits de l'homme. C'est une anomalie que la MINURSO soit l'une des seules missions de l'ONU qui n'ait pas de mandat concernant les droits humains, et cela donne l'impression que le Conseil de sécurité ne fait que peu de cas des droits de l'homme au Sahara occidental.
En 1975, la Cour internationale de justice affirmait que le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination. L'avis de la CIJ établissait que le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître au moment de la colonisation espagnole. L'instance internationale a également conclu qu'il n'existait aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Maroc, affirmant que le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination conformément à la résolution 15-14 de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous disons cela car il semble que cette question de droit instituée par les Nations unies et la Cour internationale de justice est intentionnellement détournée par des politiques. Évoquer le droit des Sahraouis à l'autodétermination, c'est défendre des principes universels et respecter les résolutions des Nations unies. Faire le contraire, c'est par ailleurs agir comme le fait actuellement l'entité d'occupation sioniste. Avec nous en ligne, Monsieur Driss Mrani, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président du mouvement progressiste marocain. Dans un premier temps, Monsieur Mrani, pouvez-vous nous présenter votre mouvement ?
Le mouvement progressiste marocain est une organisation politique marocaine qui lutte pour établir une république au Maroc et mettre fin à la monarchie totalitaire au Maroc. Nous sommes également engagés dans la lutte pour libérer notre peuple de toutes les formes d'oppression et pour établir une véritable démocratie qui respecte la volonté populaire. Notre mouvement s'oppose fermement à toute forme d'impérialisme et soutient les justes causes des peuples opprimés, y compris le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Vous évoquez les droits des sahraouis bafoués. Ne s'agit-il dans ces conditions que des droits humains ?
Les droits des sahraouis ne se limitent pas aux droits humains fondamentaux. Ce sont aussi des droits politiques, économiques et culturels que l'occupation marocaine viole systématiquement. Le peuple sahraoui est privé de son droit à l'autodétermination, qui est un droit fondamental reconnu par les résolutions des Nations Unies, ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme. De plus, les sahraouis souffrent d'oppression, de discrimination et de marginalisation sur leurs terres.
Monsieur Morani, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du mouvement progressiste marocain. Vous mettez l'accent sur la nécessaire tenue d'un référendum d'autodétermination, une exigence onusienne censée se reporter. Comment expliquez-vous dans ces conditions l'incapacité de l'ONU à faire appliquer ces résolutions ?
L'incapacité de l'ONU à organiser un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental est principalement due à l'obstruction systématique par le Maroc, soutenue par ses alliés internationaux, dont la France. Les intérêts géopolitiques et économiques de certaines grandes puissances ont pris le dessus sur le respect du droit international et des résolutions de l'ONU, ce qui a conduit à un blocage.
Vous rappelez, Monsieur Morani, votre position constante pour les causes justes. Pouvez-vous évoquer les multiples soutiens de cette cause ?
Le mouvement progressiste marocain soutient activement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations de défense des droits de l'homme qui traquent les abus au Sahara occidental, ainsi qu'avec des mouvements de libération nationale et d'autres groupes progressistes à travers le monde. Nous pensons que la lutte pour l'indépendance du Sahara occidental est une cause juste qui mérite un soutien international massif.
Quels sont vos moyens de lutte, Monsieur Morani ?
Nos moyens de lutte incluent la sensibilisation, l'éducation populaire, les campagnes médiatiques, la mobilisation des masses et la collaboration avec des organisations internationales. De plus, nous sommes prêts à intensifier nos actions sur le terrain pour résister à l'oppression et soutenir la libération.
Comment expliquez-vous, par ailleurs, les récents alignements, notamment ceux de la France et bien préalablement ceux des États-Unis ?
Les alignements récents de la France et des États-Unis en faveur du Maroc peuvent être expliqués par des intérêts économiques et géopolitiques. Ces pays veulent piller les richesses des peuples. Le Maroc a utilisé sa position de garde-frontière pour l'Europe dans le contrôle de l'immigration et outre les services fournis par le régime du Mkhazin, comme mercenaire dans les guerres menées par l'impérialisme. Par exemple, l'agression contre le Yémen. Aussi, le soutien logistique à l'entité sioniste dans son génocide contre Gaza pour obtenir du soutien à sa politique coloniale au Sahara occidental. Ces alignements montrent aussi l'abandon des valeurs de justice au profit de transactions et d'intérêts politiques et économiques.
Y voyez-vous un marchandage sioniste par ailleurs ?
Il est probable que les récents accords entre le Maroc et l'Israël soutenus par les États-Unis aient influencé ces alignements. Et ces accords font partie d'un marchandage plus large dans lequel le Maroc échange sa normalisation avec Israël contre un soutien international à ses revendications sur le Sahara occidental. Ce marchandage sioniste est une autre preuve de l'exploitation des luttes des peuples pour des gains géopolitiques.
Permettez-moi cette question, Monsieur Driss Marani, ce sera ma dernière question. Vous êtes marocain, mais vous soutenez la cause de Sahraoui. Comment et pourquoi ?
En tant que Marocain, nous soutenons la cause sahraoui parce que nous croyons en justice, à la liberté et à l'autodétermination pour tous les peuples. Nous rejetons l'occupation et l'oppression sous toutes les formes, y compris celles menées par notre propre gouvernement. Nous pensons que le soutien à la lutte du peuple sahraoui est un devoir moral et politique pour tous ceux qui se battent pour un monde plus juste. La poursuite de l'occupation gâche les opportunités d'intégration régionale au Maghreb. Les coûts élevés dépensés par la monarchie pour poursuivre l'occupation et la colonisation au Sahara occidental Tout cela se fait au détriment de l'argent du développement et de la prospérité du peuple marocain.
Monsieur Driss Varani, président du mouvement progressiste marocain, merci d'avoir répondu à nos questions. Autre destination, autre négociation. Après une première session de pourparlers vendredi à Oman, l'Iran et les États-Unis ont affirmé vouloir poursuivre leurs discussions. Téhéran campe sur ses lignes rouges, n'acceptant de discuter de son programme nucléaire et martelant qu'il est en droit de développer du nucléaire civil. Le ministre des Affaires étrangères iranien reste toutefois optimiste.
Dans l'ensemble, c'est un bon début. Mais la suite dépendra de nos consultations avec les capitales afin de déterminer la marche à suivre.
De son côté, alors même qu'il assure vouloir jouer la carte diplomatique, Donald Trump a choisi d'intensifier la pression sur l'Iran pour qu'il conclue un accord au sujet de son programme nucléaire. Pour Donald Trump, il s'agit d'un accord vaille que vaille.
Nous ne sommes pas pressés. Nous avons, vous le savez, de très bonnes discussions avec l'Iran. Nous allons nous revoir au début de la semaine prochaine. Ils connaissent les conséquences. S'ils ne concluent pas d'accord, les conséquences seront très lourdes.
Ce 11 février, le président américain Donald Trump et Netanyahou ont conclu près de 3 heures d'entretien à la Maison-Blanche sans parvenir à un accord clair sur la marche à suivre avec l'Iran, soulignant ainsi les divergences persistantes en matière de diplomatie et de stratégie de sécurité. Avec nous en ligne, Monsieur Michel Makinski, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes analyste en relations internationales, spécialiste de l'Iran et des dynamiques géopolitiques au Moyen-Orient. Monsieur Michel Makinski, comment appréciez-vous, quel regard portez-vous sur ces négociations entre l'Iran et les États-Unis au sujet du nucléaire iranien?
On a maintenant quelques points de repère. Selon plusieurs échos convergents, la première séquence s'est déroulée de façon positive. Voilà ce qui se dégage. Il semblerait, et ceci a été confirmé par le ministre turc des Affaires étrangères d'un côté et Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, que si les discussions sont limités exclusivement sur le nucléaire, des progrès pourraient être atteints sur les axes suivants. Il semblerait, mais il faut être prudent, que les Américains pourraient accepter une limitation du programme nucléaire iranien, en particulier au niveau du taux d'enrichissement, et que peut-être Washington renoncerait au zéro enrichissement. Ça, ce serait un point très important. Les Iraniens ont laissé entendre également qu'ils pourraient accepter une reprise des inspections par l'agence. On ne sait pas encore selon quel périmètre et surtout, on ne sait pas encore si la question du stock d'uranium enrichi à 60%, les 400 kilos d'uranium dont on ne sait pas où ils sont, pourrait être évoquée. Mais ça, on ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que les Iraniens ont fixé une ligne rouge. Ils ne veulent pas d'autres sujets que le nucléaire. Et en particulier, ils ne veulent pas discuter dans cette séquence la question du stock de missiles.
C'est ça.
Et le deuxième sujet qui est l'action régionale de l'Iran. De son côté, la rencontre qui a eu lieu entre Trump et Netanyahou à Washington a montré que Trump veut faire preuve d'une certaine flexibilité car il a besoin d'un accord nucléaire, en particulier dans le contexte des élections midterms. Il ne se présente pas très bien et il a vraiment besoin d'un accord. D'un autre côté, Trump a affirmé que s'il n'y avait pas d'accord sur le nucléaire, il se réservait la possibilité d'action, on comprend d'action militaire, mais on comprend aussi que cela lui poserait de ses problèmes, notamment vis-à-vis de sa base électorale, qui est très hostile à des actions militaires.
Est-ce qu'il s'agit pour l'administration actuelle, pardonnez-moi, est-ce qu'il s'agit pour l'administration actuelle de revenir aux négociations là où elles ont été interrompues par cette même administration, Monsieur Michel Makinski?
Alors, je ne crois pas que l'on puisse faire un JCPOA bis. Par contre, on peut imaginer un accord partiel nucléaire qui soit le premier pas vers d'autres négociations. Dans la balance, les Iraniens demandent évidemment une levée des sanctions. Ils n'obtiendront jamais la levée complète, mais des allègements permettant de recevoir l'oxygène financier dont l'Iran a le plus urgent besoin. Ça, c'est un des paramètres très importants. On voit que les pays de la région, Arabie Saoudite, Émirats, le Qatar, sont très hostiles à toute intervention militaire qui déstabiliserait la région.
Oui.
Les Iraniens ont laissé entendre, d'ailleurs, que en cas de frappe militaire, ils ne se contenteraient pas de ce qu'on pourrait appeler une riposte graduée, qui était un petit peu le code précédent, mais des frappes tous azimuts, y compris sur des bases américaines et sur Israël. Or, le stock de missiles iranien, qui est la principale préoccupation de Netanyahou, qui met un peu au second plan le nucléaire, mais qui est très focalisé sur les problématiques des missiles. S'il y avait une frappe massive iranienne sur Israël, les dégâts seraient beaucoup plus importants que dans les séquences précédentes. Et on sent un peu un vent de panique côté Israël, qui a laissé entendre qu'en l'absence d'accord sur le nucléaire, ils pourraient prendre une initiative de leur côté. Mais comme le stock de missiles israéliens a été très affaibli par les nombreux tirs qu'ils ont pratiqués, Israël risquerait de se trouver dans une situation extrêmement problématique en cas de frappe massive iranienne.
Ce que les pays arabes de la région craignent, c'est que leur territoire soit pris pour cible par les Iraniens. Je dis leur territoire, les bases américaines qui sont sur leur territoire soient oui. pris pour cible par les Iraniens.
Tout à fait. D'un autre côté, il y a eu deux précédents. Il y a les frappes iraniennes au Qatar, qui ont été un test, évidemment, qui a beaucoup inquiété les Qataris et les autres pays arabes. Mais les frappes israéliennes sur Doha ont vraiment créé un choc psychologique très important parmi les pays arabes, au-delà même des royautés. Et donc, la priorité numéro un, aussi bien de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats et d'autres pays arabes, est d'éviter toute augmentation de tension. C'est pour ça qu'ils ont accepté comme concession que les conversations aient lieu à Doha et non pas en Turquie comme initialement prévu. Le tout pour favoriser ces négociations.
Doit-on parler véritablement d'un assouplissement de la position américaine? Je vous pose la question, Monsieur Makinsky, car l'administration Trump refuse de limiter les pourparlers au nucléaire seulement. Ainsi, sur un agenda global, le secrétaire d'État Marco Rubio a explicitement listé missiles, dira-t-il, proxy, nucléaire et droits humains comme sujet obligatoire, n'est-ce pas là des exigences à même de ne pas aboutir ou en tout cas de faire en sorte que les Iraniens se braquent dans leur position?
Au sein de l'administration Trump, il y a apparemment des avis, différents. Et ce que l'on perçoit de Trump, qui est le décideur, c'est que lui a vraiment attaché du poids à trouver un compromis, même partiel, sur le nucléaire, quitte à ensuite déclencher d'autres négociations. Mais il a besoin de gagner quelque chose, car sur d'autres terrains, il est en position pas évidente, pas d'accord très sérieux en vue avec la Russie, qui freinent des pieds. Des complications sur le projet de Gaza, comme on voit, est compliqué parce que l'Arabie saoudite, notamment, ne souhaite pas que les Palestiniens soient complètement sacrifiés. Donc, il a besoin de ramener quelque chose. Et un accord partiel sur le nucléaire serait pour lui la meilleure solution, ce qui ne l'empêche pas de brandir, évidemment, les autres options sur la table, la perspective d'une deuxième armada qui arriverait. Il manie la pression et la négociation. Il n'est pas complètement sur la même ligne que Netanyahou, qui le gêne plutôt sur ses négociations.
Netanyahou qui le contraint dans ses négociations à prendre une autre direction, puisque les missiles qui aujourd'hui sont en discussion sont considérés comme une question de souveraineté iranienne.
Alors, je dirais que peut-être que si on considère plutôt le nucléaire, un argument iranien est assez difficilement contestable, c'est celui sur lequel l'enrichissement est autorisé par le traité de non-prolifération nucléaire. Je pense que c'est un point assez intéressant dans la position iranienne. S'agissant des missiles, il est évidemment difficile au plan du droit d'exiger l'abandon du tout stock, etc.
Oui.
Je pense qu'il y a, même sur les missiles, mais une fois que la première phase, c'est-à-dire le dossier nucléaire avancé, il y aura peut-être des pistes de négociation. Je rappelle que dans un passé pas si lointain, les gardiens de la révolution prétendaient avoir limité volontairement à 2000 km la portée, ce qui était évidemment un pur argument assez peu crédible, mais qui indiquait que néanmoins, là aussi, il doit y avoir des pistes de négociation. Mais il y a une contradiction entre l'agenda américain et l'agenda de Netanyahou. Ça me paraît assez évident. Et je pense que les pays arabes pourraient pousser, comment dire, ou encourager Trump à faire preuve de flexibilité dans la mesure où leur priorité et la baisse de tension.
Pour les Iraniens, c'est un niet catégorique. Le ministre Abbas Araghchi l'a réaffirmé, les missiles concernent la défense nationale et ne sont jamais négociables, ni maintenant, ni à l'avenir. Comment Netanyahou et Trump vont-ils, à partir de ce propos, trouver un terrain, on va dire, consensuel pour que ces négociations ne soient pas stoppées?
Je crois que les Iraniens ont dit que la négociation, elle est entre Téhéran et Washington. On ne négocie pas avec Israël.
Oui, mais on sait en même temps, que Netanyahou impose ses conditions à Trump.
Alors, ouais, je pense qu'il ne faut pas quitter des yeux le fait qu'il y a une certaine prise de distance. On a eu plusieurs symptômes entre Trump et Netanyahou. Il y a eu notamment une allusion dans le discours de Davos où Trump a dit à propos du nouveau système antimissile américain que c'est l'Amérique qui en a paternité. Il y a eu plusieurs allusions où Trump a affiché prise de distance. Et j'attire votre attention sur la démarche de Trump en direction du président Israël Herzog en vue d'obtenir une amnistie pour Netanyahou. Ça veut dire que ça arrangerait Trump que Netanyahou quitte la coalition et du coup on sait qu'il serait automatiquement mis en prison pour fait de corruption, et Trump essaie de trouver une solution pour, entre guillemets, sauver la peau de Netanyahou pour permettre qu'à la place de Netanyahou, un autre premier ministre, peut-être tout aussi conservateur, mais gérable, car c'est ça dont il s'agit, prenne sa place. Le scénario a été contrarié par une déclaration du président Herzog qui a dit que la chose n'était pas en bonne voie. Donc Trump est très embarrassé sur ce sujet.
Tout dépendra des décisions qui seraient prises à l'encontre ou à l'égard de Netanyahou en interne.
C'est un facteur important. Et apparemment, le scénario qu'avait envisagé Trump, c'est-à-dire cette fameuse amnistie, n'a pas l'air d'avancer. Il faut dire que le dossier pénal de Netanyahou et de sa femme est assez chargé.
Monsieur Michel Makinski, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps.
Merci.
Michel Makinski est chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, à l'Institut également d'études de géopolitique appliquée. Il est directeur général de la société Algéromis International, une société de conseil sur l'Iran et sur le Moyen-Orient.
Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. C'est sa dernière prière en terre étrangère. Ce soir à minuit, un Boeing 747 d'Air France l'emmènera vers Téhéran.
Le 1er février 1979, Khomeini est de retour à Téhéran. Après plus de 14 années d'exil, il confie la direction d'un gouvernement provisoire à Mahdi Bazargan. Le 11 février marque la victoire de l'ayatollah qui s'affirme dès lors comme chef de la révolution en Iran. Cette révolution confiera ultérieurement le Shah. Cette révolution, Khomeini n'a pas pu la fomenter seul. Reza Pahlavi parlera de soutien. Il évoquera des experts qualifiés en propagande pays pour mettre en exergue et en opposition la tyrannie d'une monarchie agressive face à des démocrates libéraux et révolutionnaires qui voulaient sauver le pays.
I know that top experts in propaganda were used to show us like tyrants and monsters, and the other side as democratic liberal revolutionaries who wanted to save the country.
La République islamique est instituée par référendum les 30 et 31 mars. Puis, par un second référendum, une constitution est adoptée le 2 décembre suivant. Elle institue notamment un président et un parlement, élus au suffrage universel direct pour 4 ans. Elle consacre la domination du pouvoir religieux sur l'ensemble des institutions avec à sa tête le guide de la révolution. Le 4 novembre 1979, en fin de matinée, quelques 400 étudiants prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Plusieurs étudiants parviennent à escalader les murs d'enceinte de l'ambassade et font face aux Marines qui ont l'ordre formel de ne pas tirer en cas d'intrusion. Les militaires américains tentent de les repousser pendant près de 2 heures à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes.
Monsieur Warren Christopher, le négociateur américain à Alger, a multiplié ces dernières heures ses rencontres avec les Algériens. Ce matin, il était au ministère des Affaires étrangères, sans doute pour apporter les dernières réponses. Mais de sa part, c'est toujours le mutisme total. On assiste à l'ambassade des États-Unis à Alger, un extraordinaire ballet de portières, spécialistes de toutes sortes, arrivés en droite ligne de Washington avec de grosses valises bien mystérieuses.
Finalement, la libération des otages est décidée en échange du dégel des fonds iraniens et de la promesse qu'aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre les autorités iraniennes. Les otages sont libérés à Alger le 20 janvier 1981, 12 minutes après l'adresse inaugurale du président Reagan.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Avant la révolution contre le Shah, les États-Unis étaient le premier partenaire économique et militaire de l'Iran. L'Iran a compté jusqu'à 30 000 expatriés américains qui ont exercé des fonctions techniques, de conseil ou encore d'enseignement. Aujourd'hui, les relations commerciales bilatérales sont limitées par des sanctions américaines. Le gouvernement américain interdit presque toute transaction avec l'Iran à travers l'application de Iran-Libya Sanction Act, loi sur les sanctions de l'Iran et de la Libye, votée en 1996. De toutes parts, les menaces fusent, assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la mère de toutes les guerres.
Monsieur le président américain Trump, ne jouez pas avec la queue du lion, sinon vous le regretterez. Cela vous apportera un regret éternel. Est-il possible que tout le monde dans la région vende son pétrole et que nous restions les bras croisés à regarder ça? Les Américains disent qu'ils ne permettront pas à l'Iran d'exporter une seule goutte de pétrole. Pensez-vous que l'Iran est si faible? Nous allons nous défendre. Toute la nation iranienne résistera.
De son côté, dans une interview donnée à CBS, Donald Trump a annoncé que des troupes américaines resteraient en Irak pour garder un œil sur l'Iran.
Nous avons une base en Irak et cette base est fantastique. L'une des raisons pour lesquelles je veux garder cette base, c'est parce que je veux surveiller l'Iran. L'Iran est un vrai problème. Si par exemple certains veulent se doter d'armes nucléaires, nous le saurons bien avant que ça arrive.
Au sujet de l'Iran, le Financial Times révèle que le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a joué un rôle crucial dans la maîtrise des tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis. Grâce, indique le journal, à d'intenses efforts de médiation visant à éviter une confrontation militaire dans la région. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé à plusieurs reprises la disposition de son pays, la Turquie, à faciliter le dialogue entre Washington et Téhéran pour une désescalade des tensions. Il a proposé un sommet trilatéral États-Unis, Iran, Turquie et a accueilli le ministre iranien précédemment Abbas Araghchi pour des consultations avec Hakan Fidan. Hakan Fidan indique que son pays s'oppose à toute intervention militaire dans la région.
نحن نعارض أي تدخل عسكري ضد إيران وقلنا للولايات المتحدة والأطراف الأخرى إن العواقب ستكون وخيمة لأي عمل عسكري ندعو جميع الأطراف إلى الحوار وحل المشكلات العالقة
Avec nous en ligne à partir d'Ankara, Monsieur Onur Uyman, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été représentant de votre pays, la Turquie, auprès de l'OTAN et au sein de l'Union européenne. Monsieur Onur Uyman, quel rôle joue la Turquie dans les négociations irano-américaines,
hein? L'important, c'est de voir comment les choses vont se dérouler entre Iran et les États-Unis, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a commencé, on a entamé les négociations, mais on est encore loin même de définir le contenu des négociations. Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Il semble que les Iraniens veulent négocier seulement les affaires relatives aux questions nucléaires. Mais les Américains veulent plus.
Oui, la Turquie, Monsieur Onur Uyman, est membre tout de même de l'OTAN. La Turquie est proche des États-Unis également, précisons-le.
Oui, oui.
Comment, dans ces conditions, pourra agir la Turquie vis-à-vis de l'Iran? Pour faire court dans ma question, Monsieur Onur Uyman, que gagne la Turquie en faisant l'intermédiaire?
L'intérêt de la Turquie est de voir la sécurité dans la région. Nous ne sommes pas intéressés de tirer un avantage particulier de ce problème, mais le plus grand avantage de la Turquie et de tous les pays de la région sera une paix, un accord, d'éviter toutes sortes de confrontations militaires.
Recep Tayyip Erdogan a proposé un sommet trilatéral États-Unis-Iran-Turquie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Turquie se veut dans ces conditions partie prenante?
C'est-à-dire que, bien sûr, s'ils veulent que la Turquie joue un rôle dans cette affaire, il est normal que les leaders, les représentants de ces trois pays s'assoient autour de la même table et voir si jamais on peut faciliter une solution. Que le rôle de la Turquie serait, en quelque sorte, facilitateur.
Les efforts de la Turquie visent à éviter une intervention militaire dans la région. C'est ainsi que les choses sont présentées par Ankara, tout en consolidant les relations bilatérales turco-iraniennes. En d'autres termes, il s'agit de faire d'une pierre deux coups, renforcer ses relations avec les Iraniens et ne pas perdre l'allié américain, Monsieur Onur Uyman.
Dès l'établissement de notre République en 1923, c'était la politique de la Turquie, avoir des relations amicales avec tous les pays de la région et du monde, sans prendre part entre les parties qui sont en conflit. Donc nous ne voulons pas prendre parti, mais nous voulons essayer d'établir de bonnes relations avec tous ces pays.
C'est une politique, on va dire, très équilibriste, Monsieur Onur Uyman. Voilà, Erdogan critique souvent la politique américaine au Moyen-Orient, tout en maintenant des échanges, par exemple, avec Téhéran sur la sécurité frontalière et régionale. Donc ça reste tout de même une politique très équilibriste.
C'est-à-dire que si jamais vous voulez jouer un rôle positif dans ce genre de conflit, il faut éviter de prendre parti.
En d'autres termes, une coopération pragmatique plutôt que des médiations victorieuses pour Erdogan, Monsieur Onur Uyman.
Chez nous, depuis la création de la République, nous avons des distinctions très claires entre les relations internationales et les affaires intérieures du pays, problèmes de politique intérieure, de partis politiques, etc. Ce sont deux choses différentes.
Oui, c'est certain.
Si jamais vous utilisez la politique extérieure comme un instrument pour vos fins de politique intérieure, de toute façon, vous serez par définition un grand perdant.
Mais parfois, la politique extérieure, pour la Turquie particulièrement, est un prolongement de la politique intérieure. Pour le PKK, par exemple, nous avons vu comment est-ce que la Turquie agit aussi bien en Syrie qu'en Irak. Donc souvent, c'est un prolongement de la politique intérieure, Monsieur Onur Uyman.
C'est-à-dire que dans le sens que la politique intérieure concerne les intérêts de sécurité du pays, de toute façon, nous sommes très intéressés à poursuivre une telle politique. Mais ce que je parle, les discussions parmi les partis, ce genre d'intérêt n'était pas, dès la création de la République, la politique de la Turquie.
Monsieur Onur Uyman, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Onur Uyman.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur. Onur Uyman a été représentant de la Turquie auprès de l'OTAN et de l'Union européenne et il était avec nous à partir d'Ankara. Ont participé à ce programme Onur Uyman, ancien représentant de la Turquie auprès de l'OTAN. Michel Makiski, analyste en relations internationales, spécialiste de l'Iran. Francesco Correal, historien, spécialiste du Maghreb contemporain et notamment du Sahara occidental. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Samy Haheli, Mrim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.